France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui.
Inès Leroux, journaliste et documentariste.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Si je me remémore quelques épisodes saillants de plus de 50 années de vie militante, je me dois de distinguer deux périodes distinctes. La première essentiellement consacrée à un militantisme social classique dans les sphères syndicales et politiques. Puis au-delà de 1968, la recherche d'une action beaucoup moins idéologique, plus proche des préoccupations des populations, d'une politique concrète prenant en particulier plus en considération la nécessité de faire face aux risques propres à la société industrielle. Mais toute lutte militante implique au minimum des perspective sur un autre mode de relation sociale, condition de nouveaux liens sociaux, de nouveaux rapports sociaux. Encore faut-il que ces mouvements sociaux ne reproduisent pas en interne les mêmes relations de pouvoir et la même délégation de pouvoir qui sont la règle dans la société ambiante. Car dans ce cas, ceux qui auront conquis le pouvoir dans les mouvements sociaux se considéreront comme ceux qui savent et qui, à ce titre, devront être les interlocuteurs privilégiés des institutions. Puis leurs interlocuteurs deviendront des partenaires que l'on se doit de ménager. Et c'est ainsi que nombre de syndicats et associations en viennent à une certaine collaboration avec les institutions, abdiquant du même mouvement leur rôle de contre-pouvoir. On me dira que l'on ne peut pas toujours être contre, et il est vrai que viendra un jour très lointain où il sera possible d'être pour, mais tant que la société sera totalement prisonnière des relations de pouvoir propres à la démocratie de délégation, il n'y a d'autre solution que d'assumer le contre, car en entrant dans un système de délégation de pouvoir, qu'on le veuille ou non, on tarit en interne dialogue et ouverture à la critique qui sont les conditions indispensables à une véritable démocratie et à une société fondée sur la solidarité. Henri Pezra, Risque, Science et Contre-pouvoir, un parcours, 2008. Bonjour Inès Leroux.
Bonjour.
Henri Pezra, qui est décédé en 2009, était toxicologue et militant. Il a été l'un des pionniers en France du combat contre l'amiante. Il ne supportait pas, écrivait le journal Le Monde au moment de ce décès, que des hommes empoisonnent sciemment d'autres hommes. Il a été pour vous, je crois, une très grande source d'inspiration.
Oui, en effet. Et malheureusement, j'ai raté ma rencontre avec lui parce que j'avais prévu de l'interviewer et il est décédé quelques jours avant la date de cette rencontre. Mais moi, j'ai entendu parler de lui quand j'avais une vingtaine d'années. À cette époque, je rencontrais des collectifs de malades parce que ma mère faisait partie d'un de ces collectifs. Et les malades, c'était des malades environnementaux, des gens qui avaient été contaminés par les métaux lourds. Et ils disaient, il faut qu'on aille parler avec Henri Pezra. Lui, il a réussi à mener son alerte à bien au bout de quelques décennies. Il a réussi à faire interdire l'amiante en 95-96. Et c'est pour ça que je voulais absolument le rencontrer. Et finalement, j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai fouillé dans les archives et j'ai cherché des écrits de lui. J'ai même repris des études de philosophie pour faire un mémoire sur son travail. Et j'ai rejoint une association qui a été montée par ses collaborateurs et collaboratrices qui s'appelle l'association Henri Pezra, Travail, Santé, Environnement.
Donc c'est dire aussi l'importance qu'il a eue dans votre propre parcours, on en parlera aussi avec les reportages tout à l'heure. Est-ce que votre enquête sur les algues vertes lui doit beaucoup d'ailleurs ou pas ?
En fait, j'ai passé des années j'ai été adhérente de cette association pendant des années et ça m'a permis d'avoir beaucoup d'outils, de travail, de connaissances scientifiques, de connaissances médicales, de connaissances environnementales, de me construire politiquement, de regarder le réel autrement. Et puis ça m'a alimenté en sujet d'investigation. Et c'est avec l'association Henri Pezra qu'on est venu en Bretagne enquêter ensemble avec différents membres, des inspecteurs du travail, des médecins du travail, des sociologues, des chercheurs, des juristes, sur différents sujets. Parmi ces sujets, il y avait en effet la question des algues vertes.
Les luttes qu'il a menées à Henri Pezra ont fini aussi de l'épuiser. Est-ce que c'est un paramètre récurrent dans la vie des lanceurs d'alerte ou des journalistes d'investigation ? Est-ce que vous-même, vous aviez conscience du coût personnel que ça représenterait de vous engager à ce point dans vos reportages ?
Je pense que je me posais pas la question, c'est pour ça que je l'ai fait. Je me posais pas la question parce que, comme je l'ai dit là, au départ de notre entretien, il y a une histoire familiale, personnelle, derrière mon engagement dans l'investigation. Ça a vraiment été un moteur. Ça m'a poussé à me surpasser. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, après, je dirais peut-être 10 ans d'enquête, je me suis retournée sur le chemin que j'avais parcouru. Je me suis dit, oh, j'aurais dû être accompagnée par un psychologue. J'aurais dû apprendre à avoir des temps personnels et pas. Je travaillais tout le temps. Tous les livres que j'ai pu lire, enfin que je lisais pendant cette période, mes premières années d'enquête, ça ne concernait que mes sujets. Je lisais plus de romans. J'étais complètement absorbée par mon sujet et je me suis dit que je m'étais pas mal abîmée et que j'aurais dû faire autrement.
Au sujet du poids de l'engagement, on va écouter un extrait des Algues vertes de Pierre Jolivet, tiré de votre bande dessinée, où il est question de Daniel Mermet, ancien de France Inter, et de Morgane Large, votre consoeur journaliste en Bretagne.
Ça me rappelle ce que disait un grand reporter avec qui j'ai travaillé, Daniel Mermet. Il disait, les journalistes nationaux savent rien mais peuvent tout dire, et les journalistes locaux savent tout mais ils peuvent rien dire.
J'ai écouté vos émissions et vous savez beaucoup de choses. Et moi,
Morgane.
Moi, je dis tout ce que je peux.
Tiens, madame.
C'est aussi parce que je suis un peu locale. J'habite ici, maintenant.
Voilà. Faut que tu saches, un matin, j'emmenais mes gamins à l'école. Et juste avant de rentrer dans ma voiture, je remarque qu'on avait desserré les boulons de mes roues arrière.
Oh. Et t'as fait quoi?
J'ai porté plein de Contrix. C'est en cours. Donc fais gaffe, quoi.
What dates.
Voilà, Clémentine Poitbatz et Céline Salette qui jouent votre rôle dans ce film Les Algues Vertes de Pierre Jolivet. Est-ce que les menaces et les intimidations, Inès Leroux, sont toujours présentes en Bretagne quand on fait ce métier de journaliste d'investigation aujourd'hui?
En effet, oui, c'est vrai que les premières intimidations que j'ai rencontrées ont fini par être médiatisées. Donc les procès en diffamation, notamment, les déprogrammations dans des salons du livre, les pertes de subventions quand j'étais invitée par des associations, les menaces de mort sur mes témoins, et notamment sur Morgane Large, qui est journaliste et qui a été témoin dans mon travail, qui s'est fait déboulonner 3 fois sa roue de voiture. Et depuis, des menaces ont continué. La cellule Déméter qui vient chez moi sans me prévenir. Je vais à une fête d'école de ma filleule et je me fais. On me demande, les agriculteurs de la FNSEA, des parents d'élèves me demandent de quitter assez violemment cette fête. Ou encore des procès en diffamation qui nous ont attaqués, moi-même et le Mediasplan que j'ai cofondé. Mais effectivement, on voit que, et il n'y a pas que nous, les inspecteurs du travail, des simples citoyens qui tentent d'enquêter sur la qualité de l'eau, subissent différentes menaces. Oui, ça fait partie,
Ça fait partie du boulot, c'est ça qui est incroyable en fait. C'est qu'il faut, absolument composer avec ça.
Ouais, et en fait, ce qui nous a sidéré, c'est que on a dénoncé ça dans un premier temps et en fait on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu d'aide. Ma consoeur Morgane Large a demandé par exemple avoir simplement un numéro à appeler quand il y avait des intrusions chez elle. Elle ne l'a pas obtenu et en parallèle le gouvernement a monté avec le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale et la FNSEA, la cellule Déméter, pour surveiller et punir les personnes qui s'intéressaient de trop près à l'agriculture industrielle, qui enquêtaient ou qui dénonçaient l'agriculture industrielle. Donc on voit que nous qui sommes des personnes plus vulnérables, des lanceuses et des lanceurs d'alerte, souvent pigistes, non salariés, on est encore fragilisés davantage. Et le secteur très puissant sur lequel on enquête, qui est un secteur stratégique pour la France, aussi important que l'armement, il a encore plus de moyens, policiers notamment, pour le défendre.
Votre premier basculement vers l'enquête, ça vient d'un événement intime, la maladie de votre mère. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Alors en fait, effectivement, quand je suis adolescente, ma mère commence à développer des symptômes très curieux qu'elle met sur le compte de la vieillesse alors qu'elle n'a pas 50 ans, de la fatigue, des allergies alimentaires, des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs, des problèmes d'élocution. Et en fait, elle va aller de cabinet médical en cabinet médical. On va rien trouver. On va finir par lui dire que ses problèmes sont psychologiques. Et en fait, c'est des années plus tard qu'elle va rencontrer un médecin qui s'est suicidé depuis, mais qui est considéré comme un lanceur d'alerte sur la question des métaux lourds, le docteur Jean-Jacques Mellet, qui va diagnostiquer chez elle une pollution de contamination par les métaux lourds. Et lui, en fait, il connaît la médecine allemande et il connaît les moyens de diagnostic de la médecine allemande. Et moi, je l'accompagne à ce moment-là dans cet événement, dans les rencontres avec des médecins français. Et je comprends avec elle, et grâce à ce docteur Mellet, à quel point la médecine française n'est pas formée à la médecine environnementale, aux pollutions à faible dose. Elle ne sait pas les diagnostiquer, elle fait des prises de sang, alors que c'est indétectable dans le sang, les doses sont trop faibles. Il faut aller chercher dans le foie, le rein, les organes filtrants, la masse de métaux.
Et donc c'est le mercure dans les plombages, en l'occurrence.
Donc elle, on imagine, oui, elle a des quantités énorme de mercure dans le corps, en l'occurrence dans les organes filtrants, et on suppose que c'est lié au plombage à mercure qu'elle a en bouche, qu'elle a depuis toute petite, elle en a 14, c'est énorme. Et effectivement, il y a eu un procès de santé publique en 1994 en Allemagne qui a fait interdire ces plombages, et ils sont toujours, en tout cas quand moi j'enquête, ils sont toujours posés en France.
Ça fait l'objet d'une série documentaire pour France Culture qui s'appelait Les Mercuriens en 2014, on va en écouter un extrait, et c'est votre mère justement qui s'exprime à votre micro.
Sauf qu'au départ, déjà, on ne aurait pas mis ces plombages, on n'aurait pas ces problèmes-là. Comme je vais mieux dans mon corps physique, hein, question fatigue, que je crois voir physiquement que je vais mieux, j'ai le visage moins gonflé qu'avant. Donc ces petits symptômes d'amélioration physique me donnent tellement le moral que je ne me rends pas compte que j'avais régressé nerveusement. Et la vie redevenait difficile entre ton père et moi. Il me le disait bien, mais moi, je ne voulais pas l'admettre. Maintenant, oui, je me rends compte. Mais ça fait le bourdon en même temps. Parce que je réalise que c'est vrai que j'ai récupéré des vapeurs de mercure.
Votre mère, donc, en 2014, Inès Leroux, à votre micro. Et vous redécouvrez finalement aussi sa voix à travers cet extrait. Est-ce que c'est compliqué d'interviewer sa propre mère quand on est journaliste?
Moi, j'adore, en fait. Si je ne m'étais pas investie dans tous ces sujets finalement politiques et ces questions et ces enquêtes, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le documentaire intime. C'est j'ai enregistré ma mère, mon grand-père. J'aime beaucoup. Je trouve que le micro permet de mettre quelque chose comme une troisième personne neutre entre nous et de revisiter notre relation autrement. Et j'aime beaucoup ça.
Avec toute une légèreté aussi matérielle, parce qu'être reporter avec un micro pour la radio, c'est aussi quelque chose de très simple. Mm. Il y a juste deux personnes qui se parlent et un micro tendu, en fait.
C'est ça. En fait, j'ai fait des études de cinéma et ça ne m'a pas du tout donné envie de travailler dans le cinéma, de participer au premier tournage, parce que j'avais vraiment l'impression de voir une débauche de matériel et puis des tables régie avec une débauche de nourriture et des équipes énormes qui bloquaient des rues, qui empêchaient les habitants de circuler librement dans leur propre quartier. Et quand j'ai découvert la radio, que je pouvais partir moi-même simplement avec un magnétophone et un micro, j'ai découvert la légèreté de cette production, ça m'a conquise, comme la BD ensuite d'ailleurs.
Et donc c'est dans cette maison, à Radio France, que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé.
Oui, j'ai travaillé une quinzaine d'années pour France Inter et pour France Culture comme reportrice.
Ouais. Et vous le dites souvent, cette enquête familiale donc, qui concernait votre mère, ça a aussi construit votre regard sur la question des conflits d'intérêts.
Je me suis intéressée en fait à la filière du médicament, à l'industrie pharmaceutique, et puis j'ai fait notamment pour France Culture un documentaire sur les antidépresseurs. Et en fait, j'ai pas de formation journalistique. Je débarquais et je n'en revenais pas de découvrir que les psychiatres que j'interviewais travaillaient pour l'industrie pharmaceutique aussi, étaient financés, avaient des voyages financés. Enfin, j'ai découvert tout ce système, y compris dans la formation à la fac de médecine, la présence de l'industrie pharmaceutique. Et ça, oui, formait mon regard.
C'est ce que dénonçait beaucoup Henri Pézerat, d'ailleurs. Hein. C'est le fait que des scientifiques comme lui aient des conflits d'intérêts énormes, et ça le rendait dingue, en réalité. De voir que la science se prêtait aussi à cautionner des intérêts industriels,
c'est vrai.
Par exemple.
Et aussi, là où Henri Pézerat est très fort et a vraiment structuré ma pensée, c'est qu'il a beaucoup étudié la construction des normes et des seuils dans notre société. Donc il dit, ce qu'on considère comme normes acceptables pour l'eau potable, pour l'air qu'on respire, pour le sol, etc., il faut bien comprendre que ce ne sont pas du tout des valeurs scientifiques. Ce sont les produits de confrontation entre l'industrie et le secteur de la santé publique est le fruit de négociations, de bras de fer.
En tout cas, cette vocation d'enquêtrice vous a mené donc en Bretagne, là où vos travaux ont pris une ampleur nationale. On va y revenir avec vous dans un instant, autour des algues vertes en particulier, sur France Inter, Inès Leroux.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ?
Volontiers, moi.
Je peux enregistrer, ça vous embête pas ?
Vous voyez les silos qui sont là-bas ? C'est là où je travaille. Je suis ouvrier agricole. Hier soir, j'ai pris mon bleu pour le mettre à laver, et finalement, je l'ai laissé traîner près du bassin. Et quand je suis arrivé ce matin, tous mes poissons étaient morts. Ça fait plusieurs mois que mes collègues et moi, on est malades. Et on s'est rendu compte que les grains qu'on mettait en sac, ils étaient traités aux insecticides. Et ça, le patron s'est bien gardé de nous le dire.
Quand vous en parlez à votre direction, qu'est-ce qui se passe ?
Pour eux, ils ont passé les tests sanitaires, il n'y a rien de nocif. Mais moi, je sais que nous, on est malades derrière.
La Bretagne aujourd'hui. Une bataille livrée contre un très grand groupe agroalimentaire. Une enquête d'Inès Leroux. Merci Inès. On vous dit à demain.
Extrait du film Les Algues Vertes de Pierre Jolivet, Inès Leroux, adapté de votre bande dessinée Algues Vertes, l'histoire interdite, dont le travail a profondément marqué la compréhension publique de la pollution agricole en Bretagne. Dans quelles circonstances d'abord est-ce que vous êtes arrivé en Bretagne ? Parce que vous n'êtes pas originaire de Bretagne.
Non, en fait... C'est une longue histoire, je sais pas, ça, je pourrais remonter le début de cette histoire il y a très longtemps, mais en fait, je m'intéresse aux questions des expositions des salariés aux produits toxiques. Ça, c'est grâce à Henri Pezra, parce qu'il disait toujours les travailleurs, les ouvriers, c'est les sentinelles de l'environnement, il faut s'intéresser à leur santé pour comprendre les enjeux de santé publique. Et du coup, je fais beaucoup d'émissions dans des usines, sur des salariés exposés à la chimie, au plastique, à la radioactivité, à l'amiante, etc. Et puis un jour, je m'intéresse aux salariés, aux ouvriers et aux agriculteurs exposés aux pesticides et je vais à une réunion dans le Jura. Où là, je vais rencontrer Serge Lequeo, qui est un ancien facteur à la retraite et qui défend des salariés agricoles d'une coopérative qui ont été gravement intoxiqués par des insecticides. Et lui, il me convainc donc de venir en Bretagne faire une enquête. Et en fait, au bout de, depuis Paris, je vais quelques jours comme ça par mois en Bretagne, mais je me rends compte que le mur du silence est tellement puissant que je vais pas pouvoir travailler de cette façon. Il va falloir que je crée des vraies relations de confiance avec mes témoins. Et la seule solution que je vois, c'est de m'installer en Bretagne pour pouvoir enquêter en immersion, vivre au milieu de ces gens et construire un rapport de confiance.
Donc c'est le seul moyen d'établir effectivement des relations, c'est d'être sur place et de pouvoir passer du temps. Et pas juste être là comme un journaliste en visite, quoi.
Exactement, c'est impossible, en fait. Avec les agriculteurs, c'était pas possible, c'était un milieu que je connaissais pas. Et je me rends compte qu'ils sont dans une telle méfiance par rapport aux journalistes qu'ils vont rien me dire. Et je pense m'installer quelques mois en Bretagne, et ça fait 10 ans que j'y suis, finalement. Cette enquête ne se finit pas.
Votre enquête, justement, sur les algues vertes vous a confronté à des morts humaines, et donc à beaucoup de déni, hein, vous le dites. Comment est-ce que vous avez vécu ces différents aspects ?
Ma confrontation à des morts humaines et des morts animales. Hein, c'est important, en fait, dans tous ces sujets de santé publique, de voir que toutes les espèces qui sont touchées, en fait, et les liens qu'il y a entre les espèces sauvages, les animaux d'élevage, les ouvriers, et puis le grand public, en fait, tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre. Et alors, moi, en tout cas, sur les algues vertes, moi, ce qui me passionne, d'un point de vue très pragmatique, c'est que sur tous les sujets sur lesquels j'enquête depuis des années, le lien de causalité est très difficile à démontrer parce que les effets arrivent 10 ans, voire plusieurs décennies après l'exposition à l'amiante ou à la radioactivité ou à d'autres produits, aux pesticides, etc. Alors que là, avec les algues vertes, on a des morts qu'on retrouve directement sur place, ils sont morts instantanément. Et en plus, on a des morts collectives, par exemple, de plusieurs sangliers, enfin, une harde de sangliers, ou plusieurs chiens, ou un cavalier qui est dans le coma et son cheval qui est mort. Voilà. Donc, on peut pas dire que c'est des êtres vivants qui ont eu des problèmes cardiaques isolés. Mmh. Enfin, on voit bien qu'il y a une cause toxique qui est en jeu. Et du coup, c'est passionnant dans ce dossier de voir comment le déni se construit malgré tout. Alors que les preuves scientifiques sont sous nos yeux, en fait. Et ça, moi, je l'ai presque vécu comme un polar. C'était assez En plus, cette enquête sur les algues vertes, je veux dire, en plus, à cette époque, il y avait beaucoup de scientifiques qui avaient travaillé sur le sujet, qui n'avaient pas réussi à publier, il y avait beaucoup de censure. Donc, j'étais vraiment soutenue, épaulée par des scientifiques, j'avais beaucoup d'éléments, et c'était captivant de voir comment la société bretonne refusait de voir la réalité en face, et ça faisait tellement écho avec ce qui se passe dans notre société en général face aux enjeux climatiques aujourd'hui.
Ouais. Vous parlez au passé, est-ce que les choses ont changé titre ?
Ah oui, vraiment, ouais. En fait, la bande dessinée, elle a jeté un pavé dans la mare que je soupçonnais pas du tout, que mes éditeurs soupçonnaient pas, que personne soupçonnait. Et puis, le film Les Algues Vertes a vraiment rendu ce sujet très populaire. Donc aujourd'hui... Moi, quand je suis arrivée, personne ne disait que les algues vertes, personne ne le disait publiquement, en tout cas que les algues vertes, c'était lié à l'agriculture, c'était causé par l'agriculture intensive, qu'elle pouvait tuer. Personne n'en parlait dans les discours politiques. Aujourd'hui, ça fait partie d'un programme scolaire, c'est tous les candidats aux élections, aux différentes élections en région Bretagne notamment, parlent du sujet des algues vertes. Il n'est plus question de remettre en cause le fait que c'est...
Pour autant, est-ce que ça a changé les pratiques des industriels
sur place ? Pour autant, ça n'a pas changé les pratiques des industriels sur place, non.
Et ça, c'est quand même désespérant, non ?
En fait, c'est désespérant, mais c'est vrai que... en fait, c'est tellement... c'est tellement complexe et notre système économique est pris dans une machine folle qui est... quasiment décorrélé en fait de nos savoirs et de que du coup en me penchant notamment sur l'histoire de l'agriculture intensive j'ai mieux compris en fait les ressorts et les mécanismes et bon j'accepte la situation telle qu'elle est je comprends qu'on est à quel point on est impuissant en fait vis-à-vis de cette machine capitaliste.
On va écouter la voix justement de Vincent Petit, c'est lui l'homme au cheval précisément. Il s'exprimait à votre micro pour France Inter en 2016.
Je me promène à cheval sur la grève de Saint-Michel-en-Grève, quelques minutes. À la fin de mes évolutions, je descends du cheval. Tout d'un coup, je m'enfonce dans une vasière. Je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup. Mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire. Et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider. Et à partir de là, je garantis que c'était un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance.
Voilà le témoignage de Vincent Petit qui a eu la chance, lui, de s'en sortir. Ça n'a pas été le cas de Jean-René Auffrayen, par exemple, dont la Cour administrative d'appel de Nantes a reconnu en juin dernier l'État en partie responsable de sa mort, donc à Ilion, dans les Côtes-d'Armor. Ça, c'est une première dans le dossier des algues vertes,
ouais,
Inès Leroux.
C'est vrai que c'est énorme. J'étais à cette audience et oui, c'était très émouvant en fait. J'étais avec la famille Auffray et de voir que tout ce que cette famille a mis en place pour faire reconnaître la responsabilité de l'État dans la mort de cet homme qui était un grand sportif,
apporter ses fruits. Jean-René Auffray, j'ai mal prononcé son nom tout à l'heure.
Oui, apporter ses fruits et. Bon, voilà, c'est une grande étape, en fait, dans l'histoire du combat contre les algues vertes.
Donc ça, c'est du côté de la justice, mais vous dites par contre que du côté des industriels bretons, ben, les choses, elles ne bougent pas.
Non, mais moi, je vis en Bretagne, je vis au milieu d'agriculteurs, y compris conventionnels, intensifs, et en fait, c'est intéressant de discuter avec eux, parce que clairement, ils me disent, mais nous, on lit ton travail, on est entièrement d'accord, mais on ne peut pas faire autrement que de continuer à s'agrandir, de continuer à faire des crédits, de continuer à produire plus, de continuer à utiliser de la chimie. Sinon, on meurt. Donc voilà, en fait, on est vraiment dans ce dilemme.
Donc, il y a ce rapport aussi avec les syndicats agricoles, qui est extrêmement compliqué. Hein. Vous avez cité la FNSEA tout à l'heure. Cette semaine, un éleveur, Bertrand Venteau, a été élu président de la coordination rurale, ce syndicat proche de l'extrême droite. L'éleveur dénonce régulièrement les actions de ceux qu'il qualifie d'écologistes intégristes. Et à peine élu, il a déclaré vouloir faire la peau aux écolos. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Inès Leroux ?
Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est la frange dure de la coordination rurale qui a remporté ces élections.
Pourquoi une partie des agriculteurs, une partie, hein, pas tous évidemment, mais se retrouvent dans ces propos ? Et pourquoi les écolos sont devenus des ennemis ?
C'est vraiment... Ce qui est fou, c'est que cette... que Bertrand Vantot ait gagné, c'est vraiment grâce aux régions du sud de la France qui sont les plus frappées par les problèmes de ressources et de changement climatique.
Mmh. L'eau, par exemple, hein, les questions de l'eau.
Les problèmes de gestion de ressources en eau. Et donc, on voit ce paradoxe qu'on n'aurait pas pu imaginer encore il y a quelques années, mais que plus les effets du changement climatique et les problèmes environnementaux s'aggravent, et plus le déni se renforce. Parce que vraiment, ce qui caractérise la coordination rurale, c'est vraiment son déni face aux enjeux environnementaux. C'est assez fou. Enfin, et du coup, que ça soit la frange la plus extrême de ce syndicat déjà très radical anti-écolo qui soit élu, porté par les régions les plus dévastées par le changement climatique, ça montre en fait simplement, enfin, je pense, une tendance plus large, mondiale, qui est que ben, on aurait pu imaginer un scénario face aux enjeux environnementaux qui serait un scénario de coopération, de décroissance, de sobriété et de coopération comme le proposait par exemple le philosophe André Gorz, ou bien un scénario où finalement on va vraiment se battre pour les dernières ressources. Bien sûr, il n'y aura pas pour tout le monde, et là on se bat et c'est une espèce de compétition qui fait beaucoup de victimes en fait.
Mais vous qui êtes sur place en Bretagne, puisque vous parlez de coopération, des agriculteurs de la FNSEA ou de la coordination rurale, vous en avez rencontré, évidemment. Il y a un dialogue qui est possible quand même, ou pas?
Oui, alors c'est ça que je voulais dire. Mais moi, je suis en Bretagne, où la coordination rurale n'a pas le même poids qu'en Occitanie, par exemple. Donc, je n'observe pas la coordination rurale de la même façon. Véronique Le Floch, qui était l'ancienne présidente de la coordination rurale, c'est vraiment quelqu'un qui était dans le dialogue, et dans une certaine mesure, qui était un vrai contre-pouvoir par rapport à la FNSEA, qui avait des analyses intéressantes sur la répartition des richesses dans l'agriculture.
Elle faisait du bio, hein, en
plus. Elle faisait du bio, elle était agricultrice. Agricultrice bio, elle avait témoigné dans un cache investigation sur la filière laitière. En partie, vraiment, c'est vrai qu'il y a, bon, comme je disais, c'était un rôle de contre-pouvoir. Et moi, parmi mes sources, j'ai des agriculteurs de la coordination rurale qui sont souvent des dissidents de la FNSEA, qui étaient à la FNSEA, le syndicat majoritaire, avant, qui en sont partis et qui avaient un regard critique très, très intéressant sur ce syndicat majoritaire. Mais je ne suis pas baignée dans le milieu du Tarn, etc.
Inès Leroux, vous restez avec nous, vous êtes aujourd'hui notre invitée au carré.
France Inter. La Terre au carré.
Remembrement, mot magique s'il en est, capable de déchaîner les passions les plus diverses qui vont de l'adhésion totale et inconditionnelle au refus le plus catégorique. Et pourtant, le remembrement est loin d'être un problème nouveau, puisqu'en Bretagne, il a démarré au cours des années 50. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours d'un thème qui intéresse autant qu'il divise les agriculteurs, mais aussi les citadins.
Une archive de 1973 sur FR3, Inès Leroux, vous qui êtes journaliste d'investigation. Notre invité au carré, d'ailleurs vous étiez à ce micro il y a un an pour cette nouvelle bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement chez Delcourt avec Pierre Van Hove. Pourquoi ce sujet d'ailleurs est aussi central? Et racontez-nous ce qui s'est passé aussi depuis un an autour du sujet, parce que vous en avez beaucoup parlé avec le public, vous avez fait énormément de rencontres et vous êtes aperçu à quel point justement ce sujet résonnait encore dans les esprits.
Pourquoi ce sujet? En fait, c'est d'une part parce que quand je suis venue m'installer en Bretagne, c'est l'intérêt de se déplacer des centres urbains pour aller dans les zones rurales qui sont vraiment, à mes yeux, sous-documentées. J'ai été interpellée par les habitants, notamment les personnes les plus âgées, qui m'expliquaient que pour eux, pour elles, ça avait été un moment de bascule. En fait, ça avait été une rupture anthropologique. La physionomie de leur village avait complètement changé, parce que le remembrement, c'est le moment déjà où on va passer du cheval au tracteur. Donc l'économie autour du cheval, il y avait énormément de commerce, d'artisanat autour de ces animaux. Et le passage au tracteur va faire que beaucoup de petits commerces vont fermer.
C'est pour ça aussi qu'il a fallu abattre des haies, hein, pour laisser les tracteurs rouler tranquillement sur de grands espaces.
Oui, le remembrement, donc l'abattage entre autres des haies, est lié à la mécanisation. Enfin, elle est fait pour pouvoir mécaniser l'agriculture et laisser passer les grosses machines. Et aussi, j'ai découvert ce qui était complètement méconnu, et je ne trouvais aucun écrit sur ce sujet, qu'il y avait eu des résistances massives contre le remembrement. Les paysans s'étaient fortement mobilisés, à tel point que dans certains villages, certaines communes comme à Fégréac, dans le 44, il avait fallu la présence des forces de l'ordre qui avaient occupé la commune pendant 2 ans et demi pour que le remembrement puisse avoir lieu, pour que les bulldozers puissent faire leur travail. Et puis en fait, j'entendais régulièrement parler du remembrement. Et puis à un moment, quand je m'intéresse aux algues vertes, comme je vous disais tout à l'heure, je me dis mais pourquoi on en est arrivé là, c'est quoi l'histoire? J'avais vraiment envie de tirer des fils historiques. Et du coup, je me suis intéressée à ce qu'il y avait juste avant l'installation de l'agriculture intensive, cette étape du remembrement qui a lieu principalement après la Seconde Guerre mondiale.
Et qui raconte énormément de l'évolution de l'agriculture en France. Hein, parce que vous le disiez, on passe d'une société relativement autosuffisante, qui est attaché à ses ressources, avec ensuite un modèle intensif qui, lui, est basé sur la mécanique et la rapidité. Hein.
Ouais, et puis sur des ressources qui viennent de loin, enfin, le soja, les hydrocarbures. Voilà. Effectivement, c'est un changement majeur.
Qui a bouleversé aussi les villages. Hein. C'est bien ce que vous racontiez aussi dans cette bande dessinée. C'est à quel point, encore aujourd'hui, des personnes sont marquées par les conflits aussi au sein même des villages, parce que ça a changé les territoires, le sol, mais ça a changé aussi beaucoup les âmes.
Hein. Bah en effet, en fait, on avait vraiment la population, la population paysanne, c'était un monde où c'est l'interdépendance qui dominait. Enfin, les gens ne s'entendaient pas forcément bien, mais ils étaient interdépendants, donc ils étaient obligés dans une forme de solidarité. Ils vivaient avec leurs ressources locales en bois, etc. Et en fait, ce remembrement, il a vraiment privilégié les plus gros et il a défavorisé les plus petits agriculteurs qui ont dû partir, qui sont devenus ouvriers, qui sont partis en ville ou en zone périurbaine. Et il a créé des scissions majeures dans les villages. Et aujourd'hui, enfin là où j'ai vraiment eu l'impression de faire un travail utile, c'est que j'avais l'impression, enfin comme si j'avais travaillé sur la guerre d'Algérie il y a quelques décennies, j'avais l'impression de travailler sur un sujet qui avait sclérosé en fait. Ça faisait vraiment du bien aux gens de revenir sur ce sujet. J'ai l'impression de faire un travail mémoriel. Et donc, j'étais effarée de voir dans certains villages, par exemple en Normandie, à Géfosse, en Normandie, dans la Manche, il y a encore, à Géfosse, il y a encore deux sociétés de chasse, celle pour les descendants des pro-remembrements, celle pour les descendants des anti-remembrements, il y a deux bars, etc. Enfin, les sociétés étaient encore scindées dans certains endroits, les voisins ne se parlaient pas. Et puis, j'en parle un peu de ça dans la bande dessinée. Puis après, quand j'ai fait des rencontres publiques, quand la bande dessinée a été publiée, c'était impressionnant de voir à quel point, quand j'allais dans les zones rurales, les salles où je venais parler étaient remplies par un public de tous les âges, de tous les milieux. Enfin, on sentait une soif de revenir sur cette histoire sur laquelle il n'y avait eu aucun travail.
Faire un travail utile, c'est ce que vous venez de dire, Inès Hérault. C'est ce qui vous pousse aussi, c'est un peu votre moteur dans ce travail de journaliste d'investigation. Et on vous compare parfois à Erin Brockovich. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette référence?
Non, je me reconnais pas trop. Enfin, j'ai pas été spécialement touchée par ce film. Je comprends pas pourquoi.
C'est Julia Roberts qui vous a pas inspiré.
Je crois que c'est vraiment centré sur le personnage de la journaliste, alors que quand on est enquêtrice plongée dans un sujet comme celui-là, en général, on se fait complètement discrète pour pouvoir observer, comprendre. On est un peu comme une sociologue et du coup, oui, je me reconnais davantage, par exemple, dans le personnage de l'avocat dans le film américain Darkwater de Todd Haynes, où en fait le personnage il a quasiment aucune caractéristique, il est complètement effacé et c'est vraiment l'enquête qui est le sujet principal de ce film.
Donc c'est plus la référence qui vous intéresse,
oui.
Plus qu'Erin Brockovich. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les luttes paysannes des années 50 et les luttes écologiques actuelles, Inès
Hérault? C'est ça qui est passionnant en fait. Et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que quand j'ai écrit la BD sur le remembrement, il y avait l'actualité sur les bassines, avec ces militants écologistes qui se faisaient réprimer de façon très violente. Et moi, j'enquêtais sur une autre modernisation agricole qui se faisait de façon complètement antidémocratique. Le remembrement, en l'occurrence, avec des scènes qui ressemblaient fortement aux scènes de répression populaire qu'on a pu voir autour des bassines, qui étaient des scènes de répression de paysans qui s'accrochaient aux arbres pour pas qu'on les coupe, qui s'allongeaient devant les bulldozers pour pas qu'ils arrasent le bocage, qui tentaient de défendre des rivières en méandre avant qu'elles soient rectifiées, etc. Et je me disais, mais waouh, les paysans, c'était les... Ils ont été pionniers dans une lutte écologique. Ils l'appelaient pas comme ça à cette époque. C'était simplement, ils défendaient leur mode de vie, leurs ressources et leur territoire, en fait. Mais, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'étudier cette histoire pour comprendre comment on les a menés à marche forcée vers le productivisme, l'agriculture industrielle, l'agriculture hors sol, l'agriculture chimique, et aujourd'hui on leur reproche de continuer à raser leur haies, de continuer à couper leurs arbres. Enfin, il y a une psychanalyse de l'agriculture à faire parce que ils sont vraiment pris dans des injonctions contradictoires, en fait. Mmh.
Vous parliez de répression. Il y a ces images récentes de Sainte-Soline, des répressions policières. Comment vous avez reçu ces images ?
Ben, moi, j'y étais. J'étais dans la manifestation, ça m'intéressait de voir, donc en 2023, j'ai fait celle de 2023, ça m'intéressait aussi de voir ce lieu, de voir comment se passait cette manifestation.
Mais là, il y a la sortie des images, hein, ouais, récentes.
C'est vrai, mais en fait déjà sur place, j'ai décidé de voir la retranscription qui en était faite médiatiquement, alors que sur place, moi j'y suis allée avec des personnes âgées, etc., qui n'avaient pas pensé à se masquer, et on était harcelés par les bombes, les grenades assourdissantes, etc. Enfin, il y avait une violence vis-à-vis d'une manifestation relativement pacifique qui m'a sidérée. Et du coup, je suis quand même contente que grâce à des journalistes d'investigation, la vérité soit rétablie aujourd'hui sur la dimension vraiment impressionnante de la violence policière.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Inès Hérault ? Parce qu'on a envie de savoir sur quoi vous travaillez. Après, donc, les algues vertes, le remembrement, tous ces reportages qu'on peut encore écouter d'ailleurs sur Radio France. Donc, il y a énormément de choses que vous avez faites pour la maison. Quels sont les sujets, vous, maintenant, qui vous mobilisent ?
Ouais, alors, ce qui me mobilise et puis qui me permet de retrouver un peu des ressources en moi-même, c'est de... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les rencontres autour du remembrement, les publics me disaient beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de choses extraordinaires qui se font. Et pourquoi personne n'en parle ? Enfin, bien sûr, il y a des gens qui en parlent, mais c'est pourquoi vous en parlez pas ? Pourquoi vous vous concentrez sur tout ce qui ne va pas ? Et c'est vrai que moi aussi, j'avais envie de peut-être commencer une série d'albums sur des innovations sociales et écologiques très inspirantes, très astucieuses, qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Et voilà, et donc en ce moment, je suis en train de recenser ce genre de situation.
Il paraît que vous travaillez aussi sur la lactation continue chez les troupeaux laitiers.
Ça en fait partie. Alors,
drôle de sujet.
C'est ma grande passion du moment.
Ah bon ?
Je suis complètement hantée par ce sujet.
La lactation continue chez les troupeaux laitiers.
ça fait un peu polémique, hein, parce que il y a toute une frange de la paysannerie qui préférerait qu'on valorise davantage les petits dans les troupeaux laitiers. Mais en gros... C'est peu connu, mais quand on produit du lait, ben il faut faire un petit parent à la mère, la vache, la brebis, la chèvre, qu'on va séparer de la mère tout de suite, puis qu'on va mettre dans un endroit un peu isolé, une niche à veau par exemple, et qu'on va envoyer à l'abattoir assez vite, et c'est très peu valorisé pour les agriculteurs, ça leur demande beaucoup de temps. Et il y a des éleveurs qui mettent en place la lactation continue, c'est-à-dire qu'ils traient les animaux, ils se basent un peu sur les nourrices chez les humaines, ils traient ces animaux sans faire de petits, et ils se passent de l'abattoir, et c'est vraiment des modèles peu connus et que je suis en train d'explorer.
Merci beaucoup, Inès Hérault, d'être venue au micro de la Terre au Carré aujourd'hui. En attendant donc ces prochains reportages, on peut toujours relire ou découvrir Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, c'est chez Delcourt, avec Pierre Van Hove. Merci beaucoup et bon retour en Bretagne.
Merci.
À bientôt.